Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Benoît-du-Lac qui évoque la figure de Saint Éphrem le Syrien, diacre et théologien du IVe siècle. Auteur prolifique de très beaux hymnes et poèmes en syriaque, son extrême lyrisme lui a valu les titres de Harpe du Saint-Esprit, Soleil des Syriens ou encore Colonne de l'Église. Il est fêté le 28 janvier dans les églises de rite byzantin, mais le 9 juin dans l'église catholique qui le reconnaît d'ailleurs comme docteur. Son style se situe entre le premier judaïsme rabbinique, la science et la philosophie grecque, et les traditions mésopotamiennes et perses du symbolisme mystérieux. Don Bolduc, bonjour. Don Bolduc ?
Oui.
Oui, alors, bonjour, bienvenue. On parle d'un personnage Saint Éphrem le Syrien au IVe siècle. Assez mystérieux, non?
En fait, c'est un personnage très important. Hein?
Ah oui?
Et puis, parce qu'il a écrit beaucoup, et puis il était dans des circonstances spéciales qui ont fait que ses ouvrages ont été beaucoup distribués, et puis ses ouvrages sont entrés dans la liturgie pratiquement orientale, dans plusieurs éléments. Puis c'est un homme qui a joué un rôle très important. Puis ensuite, il a vécu dans une période extrêmement difficile. Parce qu'au début, là, il est né vers 306. Alors, quand il est arrivé à l'âge de produire, à l'âge de 17-18 ans, là, eh bien,
le
concile de Nicée.
Oui, oui.
Et puis qui a déterminé la divinité du Christ, et puis tout ça, là, c'était très... Alors, et puis après ça, Constantin, qui a été l'artisan numéro un de cette production-là, eh bien, en fait, il a vécu jusqu'à l'an 337, mais après ça, ses fils, Constance et puis Julien, n'ont pas continué cette manière de penser. Alors, l'Église est arrivée dans une période extrêmement difficile parce que il y avait toutes sortes d'opinions, puis enfin, c'était une période très difficile. Alors, lui-même a été pris là-dedans. Et puis, il a réussi très bien à faire connaître l'Église dans tout son milieu. Maintenant aussi, c'est un père oriental. Alors, les pères orientaux sont... Il y avait les pères latins qui étaient en Europe, puis dans l'Afrique du Nord. Puis il y avait les pères grecs aussi qui étaient dans la région de Jérusalem, puis de Constantinople. De la Grèce. Et puis, mais il y avait aussi plusieurs éléments de vie chrétienne, des éléments importants qui reprenaient la tradition de certains des apôtres. Parce que certains des apôtres ont été dans tout le Proche-Orient, là, dans différents pays, tout ça. Alors, c'est pour ça que parmi les pères orientaux, il y en a, par exemple, qui ont prêché leur doctrine, surtout, par exemple, en Arménie.
Oui.
D'autres qui sont allés chez en Égypte, chez les Coptes. Et puis, il y en avait aussi qui sont allés dans les pays slaves, qui ont écrit en slavon. Et puis d'autres qui ont écrit en syriaque, puis d'autres en géorgien, mais le plus grand nombre de productions, c'est du côté de la Syrie. C'est-à-dire entre la région là, au nord un petit peu, là, à l'ouest de la Terre Sainte, et puis en allant vers la Turquie.
En allant vers la Turquie, c'est là où il naît, donc vers 306. Donc c'est là où Éphrem le Syrien va naître vers 306, à Nisib. Nisib, c'est vraiment à la frontière turco-syrienne actuelle, en tout cas.
Oui, justement, c'est justement.
Il y a aussi un autre élément de contexte dans Bolduc, c'est que vers 306, on est en pleine persécution de Dioclétien, non?
Oui, c'est ça.
Donc, on est à la frontière entre plusieurs empires, entre des cruautés envers des chrétiens. C'est pas un contexte très facile pour naître, comme ça, Éphrem le Syrien.
C'était vraiment très difficile pour lui. Mais c'est un homme, vous savez, qui avait une grande facilité d'adaptation. Ici, il fait un ouvrage de Sébastien Brock. oui. Sebastian Brock, plutôt, c'est un anglais, c'est un docteur de l'Université d'Oxford, qui s'est intéressé beaucoup à lui. Et puis, il a décrit assez bien. C'est un théologien qui est droit, qui est un homme qui est prudent, et un homme qui est équilibré, qui est doux, mais ferme à la fois, aussi. Puis il a exercé sur l'Église syrienne une grande influence en vue de la ramener à la vérité évangélique et de l'y conformer. Aussi, il a eu une influence décisive sur son milieu. Ses dons d'orateur, ses talents de poète y ont contribué, mais aussi son amour profond du Seigneur, sa piété tendre et simple envers la Vierge Marie. Mais quand il parle de la Sainte Vierge, c'est une façon de parler qui est très étonnante, mais d'un autre côté, c'est très vrai. Il dit que la Sainte Vierge, c'est elle qui a conçu Jésus, qui l'a porté dans son sein, puis qui portait tous les espoirs de l'humanité dans son corps. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, elle l'a mis au monde, et puis elle l'a élevé. Et puis, avec Saint-Joseph, ils en ont fait un grand homme. Alors, il y a une façon de parler de la piété mariale qui est très spéciale, mais qui correspond un petit peu à la mentalité de plusieurs autres pères orientaux.
Ephrem Lustérien n'a rien d'occidental. Il est vraiment dans la moitié orientale du christianisme.
Ce que vous dites là, c'est parfaitement vrai. C'est pas la pensée de philosophique ou aristotélicienne ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas quelque chose comme ça. C'est plutôt une pensée qui s'adresse à des gens ordinaires. Là, puis, il faut pas avoir fait des études de philosophie pour comprendre sa doctrine. Là. Simplement, le texte de l'Évangile, puis réfléchi par des gens simples, puis qui comprennent ça.
Il va naître, je reviens à sa naissance, il naît à Nisib, mais il y a tellement d'animosité dans la région, il y a un tel foisonnement religieux également, il y a des sectes, il y a d'autres religions, etc. Les Perses aussi veulent ce territoire-là, vont l'avoir, et donc il va devoir quitter pour finalement s'établir à Édesse, à 150 km à l'ouest à peu près de Nisib, et c'est là où qu'il mourra autour de 373, je pense, de la peste.
Ah oui, alors il a fait sa vie principalement à Édesse. Il a commencé à Nizim, là, mais seulement il a fait sa vie pratiquement à Édesse. Et puis, mais seulement, on se demande, ce que je trouve étonnant dans son enseignement, c'est que il a donné un enseignement dans des circonstances extrêmement difficiles, et puis dans des églises aussi. Comment voulez-vous qu'un homme qui parle, puis qu'il n'y a pas de haut-parleur, comment voulez-vous qu'il s'adresse à beaucoup de gens? Parmi ces gens-là, il y avait toutes sortes de langues, puis des dialectes, puis tout ça, là. Mais comment voulez-vous que... Alors, on disait quand il faisait ses homélies, parce que c'est un homme qui était un prédicateur, finalement, qui a fait de l'enseignement, puis qui a communiqué sa pensée, surtout par les sermons. Alors, ces sermons, c'était comme des hymnes, voyez-vous.
Oui, c'était des sermons en vers, hein?
Oui, c'était souvent des fautes de la poétique, comme une grande expression. Oui. Mais seulement pour se faire entendre, on disait qu'il était entouré d'un groupe de jeunes filles effectivement, reprenaient ses idées principales, qui intervenaient au cours de ses homélies pour chanter une phrase qui était caractéristique d'un paragraphe ou d'un volé.
Ça devait être bien.
Alors, il réussissait à se faire entendre dans une très grande église, mais d'une façon spéciale. Simplement parce que il y avait des jeunes filles qui écoutaient ce qu'il disait, là, puis à un moment donné, là, il disait « Oui, c'est vrai, puis enfin, c'est ça, puis Jésus... » C'était quelque chose d'assez extraordinaire que de réussir à parler dans une grande église, à une foule de gens, puis les gens qui souvent n'ont pas d'instruction, une grande partie de ces gens-là ne savent pas lire ni écrire. Ouais. Et puis, mais seulement, il trouvait un moyen de communiquer sa pensée. Puis on sait certainement que c'est un homme qui est très séduisant, puis enfin, les gens devaient l'aimer, puis enfin...
Ben, on l'appelle la harpe du Saint-Esprit.
C'est l'homélie.
Dans Bolduc, vous nous parlez d'un poète, mais il était théologien également. Il a écrit en prose, toujours en syriaque, mais il a également écrit en prose, non?
Oui, c'est vrai. C'est tout un enseignement, une partie de son enseignement qui est en prose.
Oui.
Et puis, c'est quelque chose de très intéressant. Puis, c'est un homme pour qui j'ai une admiration sans borne. Hein,
parce qu'il
était dans des circonstances très difficiles, dans un milieu là, qui était. Il y avait toutes sortes d'hérésies, puis des gens qui liaient l'existence de la divinité du Christ, toutes ces choses-là. Mmh. Mais lui, là, dans sa manière simple et douce, enfin, il réussissait à convaincre tout le monde.
Justement, il y avait des Ariens, des Martionites, des Manichéens, des Bardésanites, je ne connaissais pas ça,
oui.
Et des Gnostiques. Alors, il y avait tout un mélange dans lequel il devait se dépatouiller et affirmer sa foi nicéenne.
Ah oui, affirmer sa foi nicéenne, c'était toujours au point de vue doctrinal, c'était toujours parfait, vous savez, toujours bien pensé. Et puis, en même temps, c'était fait d'une façon telle que les gens, spontanément, ils disaient, bien, c'est ça qui est la vérité, et puis enfin, on n'a qu'à le suivre, et puis ils vont nous conduire au ciel.
C'est
beau, c'est les origines de l'Église, seulement c'est un homme qui a joué un rôle là, très, très important.
Il y a une prière très connue de saint Ephrem le Syrien dont on parle aujourd'hui. C'est la prière de saint Ephrem. Ça vous dit quelque chose, ça?
Non, ben je dirais, est-ce que c'est de lui ou d'un autre saint Ephrem?
Il y a l'Ephrem le grec aussi qu'on a tendance à confondre.
Oui. Mais je ne sais pas lequel des deux. Mais très bien. Pouvez-vous nous donner le texte de cette prière?
Oui, tout à fait. Il ne nous reste plus que 3 minutes, mais on va le faire. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles, mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, purifie-moi, pécheur, dit-on 12 fois. Prière de saint Ephrem. Il y avait une chose assez intéressante chez Ephrem, c'est que les gens qui l'écoutaient, qui ne savaient ni lire ni écrire très souvent, retenaient par cœur ce qu'il racontait, parce qu'il avait... Il y avait une forme rythmée, il y avait des images splendides, il y avait des accents chaleureux. Ça rentrait dans l'esprit des gens.
Ben oui, c'est un homme, je vous dis, qui a eu une influence immense.
À ce
et
point.
Il a eu un rayonnement extraordinaire. C'est vraiment c'est fantastique quand on voit ça.
Aujourd'hui, je le connaissais pas, j'ai découvert dans mes recherches. Est-ce qu'il est quand même connu chez les... À Saint-Benoît-du-Lac, tout le monde le connaît forcément, non?
Bien, nous autres, évidemment, on le connaît parce que... Mais seulement, dans l'Église orientale, il joue encore un rôle très important parce que dans la liturgie des Églises orientales, beaucoup de ces textes sont passés dans la liturgie.
Ah, oui,
alors, les chrétiens orientaux, pour entendre souvent ces paroles, puis enfin, se conforment leur propre foi à son enseignement. C'est un homme qui a une très grande influence, puis qui joue un rôle extrêmement important.
Mais écoutez, pour illustrer ce que vous dites dans Bolduc, Ephrem le Syrien est fêté le 28 janvier dans les églises de rite byzantin, le 9 juin dans l'église catholique, le 7e samedi avant Pâques dans l'église syriaque orthodoxe, le 18 juin dans les églises maronites, chaldéennes et latines, selon l'ancien calendrier, et le 22 juillet dans l'église copte orthodoxe. Donc c'est presque tous les jours la fête de saint Ephrem.
Je vous dis, c'est un homme qui est très important pour les orientaux. Et on dirait que cet homme-là a exprimé les plus belles idées que ces gens-là ont dans leur esprit. Il les a exprimées, puis enfin, les louanges à Dieu, puis par des hymnes, puis par des chants, puis des poésies. Il a exprimé l'âme orientale.
Saint Ephrem le Syrien, E-P-H-R-E-M, pour les gens qui veulent taper ça sur Internet, qui était syrien, donc, diacre et théologien du 4e siècle. C'est la beauté de son style, la fait qu'on l'a appelé la harpe du Saint-Esprit, le soleil du Syrien, ou encore la colonne de l'église dans Bolduc. Merci beaucoup pour ces propos sur Saint Ephrem le Syrien. La semaine prochaine, Saint Paul Mickey et ses compagnons.
Ah oui, Saint Paul Mickey.
Génial. Voilà, c'est la fin de l'émission. La régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité et entre-temps qui vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.